Du monde dans les studios de Radio Royan Vercors ce matin pour évoquer un sujet qui fait beaucoup parler, que l'on habite dans le Royan ou sur le plateau du Vercors, et même ailleurs. On parle du logement. Crise de l'accès au logement, impact des résidences secondaires, logement social, Airbnb, spéculation, boîte à clés, insalubrité et volets fermés. Le sujet est vaste. Et pour en parler, je reçois Esteban et Franck. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Donc cette grande question du logement dans le Royan-Vercors vous a interpellé. Vous l'étudiez depuis quelques mois, je crois, au sein d'une association pour toi, Esteban. Et c'est un sujet de recherche pour toi, Franck. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment et pourquoi vous êtes arrivé à vous questionner sur l'habitat ici et pourquoi avoir choisi soit ce contexte associatif, soit universitaire ?
Eh bien, je vais commencer. Donc, pour ma part, j'ai un parcours un peu particulier puisque je suis retraité et j'en ai profité pour reprendre des études. Donc, je suis en dernière année de licence de géographie et aménagement du territoire. Donc, le logement rentre dans ce cadre de l'aménagement du territoire. Donc, ça, c'est la première bonne raison qui m'a fait faire ces recherches. Et puis, je suis également originaire de Romans. Donc, le Vercors, c'est un peu ma campagne. Et j'y ai une maison secondaire sur la commune de La Chapelle en Vercors. Donc, c'est une deuxième bonne raison d'avoir étudié ce thème, quoi. Donc, voilà pour moi mes bonnes raisons d'être là aujourd'hui.
Moi, ça fait 4 ans que je suis arrivé sur le territoire du Royan. 4 ans lors desquels j'ai quand même pas mal changé de logement et j'ai été confronté, moi ou dans mon entourage, à des retournements de situation, des galères et des rebondissements un peu dans l'accès à du logement. Alors, je suis plutôt jeune, j'ai pas trop de revenus, je suis pas dans une forme familiale qui correspond à la plupart des disponibilités de logement. Du coup, ça donne souvent des colocs, des sous-locations, des arrangements pour trouver un logement quelques mois et repartir des fois travailler parce qu'il y a pas non plus tout le temps du travail dans le coin. Et par ailleurs, on constate dans les centres-bourgs des villages qu'il y a quand même pas mal de maisons qui, en tout cas, paraissent vides ou inutilisées. Et du coup, ces deux bouts de la chaîne font se poser des questions sur c'est quoi les enjeux qu'il y a autour du logement ici et comment on pourrait défricher un peu plus tout ça. Et la FOP, qui est une association qui œuvre dans le coin à la défense un peu de communs sur le territoire.
La FOP, est-ce que tu peux définir ce que c'est ?
Et ben la FOP, c'est la Fédération des Amis et Usagers du Parc du Vercors. C'est une association qui a été créée il y a 50 ans et qui a été associée à la création du PNR. Elle est un peu comme un organe de veille citoyenne et militante de ce qui se passe un peu dans le coin. Elle a porté des combats récemment contre les aménagements routiers touristiques dans le Vercors ou bien contre la réintroduction de la chasse sur la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors. Et elle commence aussi à avoir un aspect un peu d'enquête habitante et de recherche récemment autour de l'eau, mais également autour du logement. Et du coup, nous, c'est un endroit, en tout cas, qu'on a investi pour se questionner sur cet enjeu du logement sur le territoire.
Alors, je voulais juste rebondir sur ce que disait Esteban. Une première chose pour dire que l'habitat et le logement, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie des gens, parce que sans logement, on n'a pas de travail, on n'a pas... pour les gens qui ont des enfants, on a des difficultés à se stabiliser pour les mettre à l'école. Voilà, donc c'est une nécessité sociale que d'avoir un logement, quoi. Donc, d'où l'intérêt dans ce thème. Et puis, je voulais juste en profiter pour remercier la FOP qui m'accueille, puisque je suis aussi dans le cadre de la réalisation d'un stage, et donc je le fais au sein de la FOP. Donc, je les remercie.
Donc, tu crées ton stage avec la FOP sur cette question du logement. Et moi, je voulais juste revenir un petit peu en arrière. Donc, ce groupe logement à la FOP, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous faites avec cette association?
Eh bien, ce groupe, il a vocation à essayer de produire un peu de la connaissance et une analyse ancrée sur ce territoire, sur les enjeux qui conditionnent l'accès au logement dans le coin. Et on essaye un peu de sortir ce sujet des cercles dans lesquels il discutait, qui serait peut-être un peu d'un côté un cercle d'experts et d'expertes qui, par leur métier, travaillent ces questions du logement. Donc ça peut être les bailleurs sociaux qui gèrent une grosse partie du parc locatif du territoire, ou bien les communautés de communes ou les communes à travers les orientations des PLU ou l'usage de leurs bâtiments communaux, mais aussi les départements et les régions qui, à travers leur financement du tourisme ou bien plutôt d'infrastructures pour les habitantes, conditionnent aussi ce qui va se jouer du côté du logement. Et nous, on se dit qu'on pourrait faire du logement plutôt quelque chose de commun et une ressource un peu partagée et gérée à l'échelle d'une communauté habitante. Et en dehors de ce cercle expert, il y a aussi un cercle un peu privé dans lequel les discussions du logement se jouent, qui sont un peu entre personnes qui sont propriétaires et qui vont décider quel usage va être fait de leur bâtiment, ou bien entre locataires, mais qui sont souvent quand même mis en concurrence sur un marché un peu tendu. Et nous, on se dit que si on arrive à se mettre un peu autour de la table et à discuter de ça ensemble, ce serait peut-être un peu plus chouette.
Et est-ce que vous avez déjà pu avoir des expériences où vous avez pu vous mettre autour d'une table, justement, comme tu dis, rencontrer des habitants, des habitantes, et commencer à se questionner là-dessus ?
Et un peu, notamment, il y a quelques mois, on a posé une table sur le marché à Pont-en-Raillon avec un micro, quelques documentations sur le logement, sur ce qui se faisait ailleurs dans d'autres territoires qui rencontrent un peu des problématiques similaires de vacances et de résidences secondaires. Et on a un peu pu recueillir des avis, des analyses, des doléances sur le logement, des histoires un peu sorties de derrière les fagots. Et on a d'ailleurs amené avec nous quelques extraits de ces enregistrements, si on veut s'en écouter quelques-uns.
Eh ben, c'est parti, on écoute.
Ouais. Partagez-nous des stratégies de toi ou tes proches qui ont permis d'accéder à un logement, à un espace alors que c'était pas gagné. Malheureusement, à 35 ans, j'ai dû demander à ma maman d'être garante.
Mais après, ça se libère pas, c'est hyper prisé. Parce que l'autre fois, quand j'étais à France Connect, il y avait une personne qui est là qui cherche un logement depuis un an. Je pense les potes qui ont leurs apparts, là, elles l'ont depuis un an. Et du coup, la personne de France Connect, elle expliquait qu'en fait, il y a des moments où les gens partent. Et du coup, ça fait des apparts de libre. Mais après, ces apparts, en fait, il y a une liste d'attente de gens qui fait dessus, un peu comme... Pas une liste d'attente, mais du coup, c'est quand même dur dans le coin de trouver des apparts à pas trop cher. Enfin, c'est pas...
Je trouve que, sans être absolument macroniste, je trouve que de taxer les résidences secondaires, c'est plutôt quelque chose de pas mal. Par contre, dans le village, il y a pas mal d'appartements ou de maisons qui sont fermées et qui sont pas, qui s'écroulent toutes seules, quoi. Donc c'est un peu dommage. Avoir 3-4 maisons qui ne sont pas utilisées, j'en vois pas bien l'intérêt.
Et puis aussi, moi j'ai été surprise du coup des logements sociaux, parce que j'ai trouvé le logement que j'ai trouvé, il était moins cher que dans les logements sociaux. Et quand je cherchais, je comparais, c'était à peu près équivalent. Donc j'étais là,
Le dernier exemple que j'ai vu, c'est à Austin. Je me promenais sur Austin, il y a une maison qui est fermée depuis je ne sais pas combien de temps. Et du coup, je suis allée discuter avec les voisins. Et c'est une histoire de divorce où ils se mettent pas d'accord sur ce qu'ils vont faire. Ça fait plus de 10 ans que la maison est inhabitée. C'est pas normal. C'est pas normal.
Non, c'est parce que du coup, les potes qui ont eu leur maison, eux, en location, parce que connaissance d'un ami du propriétaire, et que du coup, leur proprio connaissait un autre proprio qui louait cette maison.
Ils se connaissaient entre propriétaires, quoi.
Ouais, je crois que c'est ça. Et encore, j'ai pas le fin mot de l'histoire. Je pense que je l'ai pas trop non plus.
Donc voilà, ça, c'est quelques bribes de ce qui a été récolté sur la place publique. Et un peu plus récemment, on a eu ce mail de Franck, étudiant à l'université de Grenoble, qui nous a sollicité pour un stage. Et on a été assez amusés, mais vachement intéressés aussi par son statut de résidence secondaire sur le Vercors, finalement, qui arrivait conscient des enjeux qui traversaient le logement, en se proposant de défricher un peu quelles conséquences le tourisme pouvait avoir sur l'accès au logement sur le plateau du Vercors, donc du coup plutôt sur le Vercors Sud, comme c'est là où il réside une partie de l'année. Et du coup, Franck, si tu veux nous parler un peu de ce travail d'enquête, vas-y.
Eh ben oui, avec plaisir. Alors, du coup, le premier constat que j'ai fait, et c'est pas moi qui l'ai fait d'ailleurs, c'est de dire qu'il y a une crise du logement. Alors, certains la remettent en cause. Là, on a pu entendre à travers ce micro-trottoir, micro-marché, que effectivement, c'était une réalité. Hein. Donc, actuellement, la crise, elle est bien réelle. Hein. On a beau construire des milliers de logements, pour autant, il en manque. Et moi, ce que j'ai voulu... j'ai travaillé plutôt sur un domaine un peu plus resserré. L'idée, c'était de savoir quel était l'impact du logement dédié au tourisme sur la possibilité et la disponibilité du logement principal. Là, dans les micro-trottoirs, on a entendu... alors, il y a plusieurs types de logements. Hein. Il y a le logement principal, il y a le logement dédié au tourisme, et puis il y a le logement vacant. Alors, la vacance des logements, c'est difficile d'y remédier, même si je crois que l'État, en ce moment, fait des choses, promulgue des lois et des aides financières pour aller à l'encontre de ça. Les communes ont des difficultés à remettre sur le marché ces logements vacants. Alors, c'est des histoires de coûts, c'est des histoires familiales, de succession, enfin voilà quoi. Moi, pour ma part, j'ai plutôt étudié le logement dédié au tourisme. Et je suis parti quand même du constat, donc comme disait Stéban, sur j'ai étudié quatre communes, hein, La Chapelle, Saint-Agnan, Saint-Martin et Saint-Julien. Sur ces quatre communes, on est pratiquement entre 30 et 50% de logements touristiques ou secondaires. Ce qui est énorme, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. Alors, il y a des bonnes raisons pour que ces logements restent secondaires, mais ils enlèvent la possibilité, pour le coup, aux gens qui voudraient habiter in situ, d'avoir des logements disponibles.
Et du coup, toi, ton travail d'enquête, puisque c'est ça que tu as réalisé, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu as pu obtenir ces chiffres, avoir des témoignages pour ton étude?
Alors, j'ai pris plusieurs voies, hein, ça c'est les méthodes universitaires, hein, mais la plus intéressante, c'était d'avoir des entretiens. Donc j'ai sollicité les élus, et ces quatre communes m'ont répondu, pour le coup, fort gentiment, parce que c'est chronophage, ils ont autre chose à faire, mais en tout cas, ils m'ont accueilli. Et donc, ça a été une de mes sources principales et, je dirais, plus fiable pour avoir ces chiffres et vraiment le contexte du logement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, d'avoir une idée de la politique du logement qu'ils engageaient sur leur commune. Parce que c'est aussi important de voir ce que font les communes, en sachant que l'État, quelque part, se désengage. Et c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est sur des rapports notamment du Sénat. Donc l'État se désengage et donne ce domaine à traiter au niveau des communautés de communes ou des régions. Donc, c'était intéressant d'avoir leur avis et leur état des lieux réel, quoi.
Donc, elles ont vraiment, les communes dans le Royan-Vercors ont une main mise, entre guillemets, sur l'état du logement. Elles peuvent être force de proposition, force d'innovation.
Tout à fait. Alors, et d'ailleurs, ce qui était intéressant à voir sur les différentes communes, c'est qu'il y avait vraiment différents états des lieux. Je prends un exemple. La commune de Saint-Agnan a un parc immobilier communal qui est énorme. Alors quand je dis énorme, c'est 20 appartements, mais ce qui est énorme, quoi, sur une commune où il y a 400 habitants, voilà, quoi. Donc eux, ben, par exemple, ils avaient une politique et qui est historique de racheter d'anciens hôtels et d'anciennes colonies pour les transformer en logements. Alors je les appellerai pas logements sociaux parce qu'ils sont pas officiellement qualifiés comme ça, mais pour autant leur idée c'est bien de modérer les loyers et de pouvoir accueillir les gens dont parlait Esteban tout à l'heure, des gens qui sont dans la précarité ou dans la difficulté pour avoir des moyens financiers. D'autres communes ont choisi d'autres voies. Je prendrai par exemple le cas de La Chapelle en Vercors, où eux, ils favorisent, alors pour le coup, le logement social officiel, je dirais, hein, avec un travail avec la DAH. Donc,
c'est quoi la DH?
Donc, c'est Drôme Aménagement Habitat. Donc, c'est une entité, une structure étatisée, hein, mais qui, de façon régionale, gère le logement social.
C'est un bailleur social, en quelque sorte?
C'est un bailleur social, tout à fait, qui est financé par la Caisse des dépôts, si je ne dis pas de bêtises, et qui génère des logements sociaux là où il y a des projets. Ce qui est le cas à La Chapelle. Et donc il va y avoir... c'est une voie qu'a pris la commune de faire des logements sociaux via
là,
cette voie.
Je crois que c'est une reconversion de bâtiments, c'est ça?
C'est tout à fait ça, oui. Alors je crois qu'il y a un ancien bâtiment militaire, si je ne m'abuse, et puis une colonie aussi. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que ça sera une dizaine de logements dispo, quoi. Donc ce qui est aussi intéressant, quoi, pour les gens. D'autant plus que la commune de La Chapelle est attractive dans le sens où il y a un bassin d'emploi un peu plus important quand même que dans des communes comme Saint-Julien ou Saint-Martin qui sont plutôt basées sur l'agriculture, quoi. Donc ça permettra d'accueillir des gens et pour un logement et pour un emploi.
Et moi, là, il y a un mois, j'ai fait un micro-trottoir justement sur le marché de La Chapelle. Je parlais pas initialement du logement, mais je demandais aux habitants et aux habitantes quel serait leur projet politique à porter pour le Vercors. C'était à l'occasion de la venue d'Emmanuel Macron. Et à deux reprises, il y a des personnes qui m'ont parlé de l'accès au logement, d'avoir des conditions d'accès au logement qui soient plus faciles pour les personnes qui souhaitent s'installer. Il y a eu aussi des remarques et des retours assez cinglantes sur la présence d'Airbnb et les logements secondaires. Et il y a une des personnes qui me disait, en fait, accueillir des nouvelles personnes ou des personnes qui changent juste d'une commune à l'autre, c'est aussi une manière de recréer de l'emploi. Ça va créer de l'emploi dans le futur, quoi. Est-ce que ça, t'as pu en parler peut-être avec les communes de ce que ça représente avec une vision un peu plus large de ce que c'est que d'accueillir, en fait, de mettre en place des politiques d'accueil?
Alors, déjà, il y a une particularité sur ces quatre communes que j'ai étudiées. C'est le phénomène de l'attractivité. Il faut savoir que d'un côté, on a Saint-Julien et Saint-Martin qui sont très attractives par rapport à la commune à la ville même de Villard-de-Lans. Une petite parenthèse, donc Villard, c'est la ville du plateau, une station de ski. Les loyers et le prix du foncier sont en train de grimper de telle manière que les gens n'arrivent plus à se loger ou à construire. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils s'éloignent un petit peu et ils se retrouvent dans ces communes-là. L'attractivité de La Chapelle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'emploi. Et puis Saint-Agnan est un peu dissocié de ces deux cas. Ils sont trop loin de Villard et ils n'ont pas d'industrie ou d'artisanat qui est suffisamment créateur d'emplois pour attirer des gens. Pour autant, ils accueillent de nouveaux habitants. Alors c'est souvent des gens qui reviennent dans des maisons familiales, qui étaient fermées d'ailleurs, hein, des logements pour le coup vacants, et qui voient leurs fenêtres se réouvrir, ce qui est pas mal.
Et moi, il me semble... de ces entretiens avec les élus, qu'il y en avait quand même pas mal qui faisaient le lien entre l'enjeu d'accueillir de nouvelles personnes et l'enjeu de maintenir aussi des effectifs scolaires suffisamment hauts pour que les villages restent vivants.
Ouais, alors tout à fait. Ça a été verbalisé par les élus. Hein. Plusieurs problématiques. L'école, effectivement, et on le sait tous, un village sans école, c'est un village qui meurt. Et deuxième chose, c'est aussi le commerce. Effectivement, s'il n'y a pas de commerce, je ne suis pas attractif, mais pour être attractif, il faut du commerce. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et donc les politiques des communes vont bien dans ce sens. Et ils ont bien, pour moi, pris en compte que le logement était une des clés du fait de pouvoir rapporter de la vie dans nos villages. Et en tout cas, à minima, de les maintenir avec un commerce, une école, des gens qui sont là, des nouveaux habitants, parce que ça régénère la population, ça amène des dynamiques qui sont hyper importantes pour les petites communes, quoi.
Et est-ce que ces élus ont réagi face à la touristification du parc locatif et aux effets que ça peut avoir? Je pense à certaines communes qui commencent à vraiment essayer de mettre en place des plans pour limiter le nombre d'habitats touristiques.
Alors, c'est le dilemme des communes. C'est que d'un côté, le logement touristique amène une manne financière énorme, parce que forcément, qui dit touriste dit consommation, que ça soit dans des événements, dans les commerces. Et puis également, il faut savoir que les maisons secondaires sont les dernières à être taxées sur la taxe d'habitation. Et je rajouterai encore l'apport des nuitées Donc, bon, d'un côté, ça leur amène de l'argent, mais d'un autre côté, ça limite la possibilité d'accueil de personnes que je disais tout à l'heure, dynamiques et force de vie de ces communes. Donc, elles se trouvent dans ce dilemme-là de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je minimise le tourisme ou est-ce que... ils essaient de jongler un peu entre les deux, quoi. En sachant que de toute façon, ils n'ont pas la main mise sur le logement touristique. Ça reste une des libertés des propriétaires. Alors, ils ont un petit bras de levier, c'est l'augmentation des taxes d'habitation qui est à leur main. Mais c'est un jeu dangereux, quoi. Donc, leur idée, c'est vraiment d'essayer d'équilibrer tout ça pour avancer, quoi.
Ouais, en effet, là, je regardais sur certaines communes, j'ai fait une simulation hier soir pour préparer ce plateau sur Airbnb, et on voit que pour une semaine, la nuitée coûte entre 60-65 € et plus de 200 € dans les endroits, avec une moyenne, je dirais, autour de 90 €, ce qui fait une semaine à 350-400 € minimum, dans vraiment les tarifs les plus bas, à deux. Ce qui équivaut généralement au loyer d'un logement mensuel à deux dans le Royan-Vercors, quoi. Mmh. Et du coup, on est face à des gros paradoxes. Il y a des enjeux de spéculation aussi. Est-ce que ça, vous avez pu en parler dans vos entretiens respectuels, soit à la FOP, donc pour toi, Esteban, soit dans le cadre de ton stage pour toi, Franck?
Alors, moi, pour ma part, j'ai pas pu interviewer les potentiels habitants. Pour autant, je sais que, par exemple, sur la commune de Saint-Martin, ils ont une liste d'attente qui équivaut à plusieurs années avant la mairesse qui m'a dit ça. Ils ont une liste d'attente qui est énorme, quoi, et ils n'arrivent pas à répondre à cette demande, quoi.
Ouais, les enjeux de spéculation, c'est pas très empirique, mais je les constate plutôt dans mon entourage, en fait, avec des personnes qui cherchent à accéder à la propriété et qui sont là depuis 4-5 ans et qui se rendent compte, notamment depuis le Covid, à quel point les prix ont augmenté.
Il y a un autre dilemme, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que post-Covid, on a une attractivité de la ruralité qui monte en flèche. On sait que les gens ont besoin d'une qualité de vie plutôt que de certaines facilités d'accès à des services ou à l'urbanité, quoi. Et puis il y a aussi quelque chose qui va à l'encontre de notre souci, c'est que il y a des lois qui ont été promulguées par rapport à la durabilité, à la protection de l'environnement. C'est par exemple la loi ZAN, donc zéro artificialisation nette. Donc ça veut dire que du coup les communes ont du mal à faciliter l'accès à la construction et à délivrer des permis de construire. Et dernière petite chose, par rapport à ça, la gestion revient maintenant aux communautés de communes. Les communes n'ont plus tout à fait la main sur l'urbanisation, hein. C'est mutualisé au niveau de la communauté de communes. Et donc ça génère des problématiques parce que tout le monde n'a pas la même... toutes les communes n'ont pas les mêmes idées, mais n'ont pas le même poids dans la communauté de communes. Donc encore une difficulté à gérer le domaine du logement.
Et moi, peut-être un dernier truc qui m'avait interpellé dans tes entretiens, quand tu demandais si le fait d'être dans un PNR avait un effet en termes de normes sur ce qui était possible ou pas de faire en termes de politique du logement, les élus ont presque tous répondu que le PNR n'avait pas d'effet en termes de normes, mais avait un effet positif par la visibilité nationale qu'il générait. Et du coup, je trouvais ça un peu marrant que le marketing territorial du Vercors puisse à la fois être source de touristification et du coup de difficultés d'accès au logement, mais par ailleurs ramener de nouveaux habitants plutôt sur le long terme par rapport à si on avait été dans un autre territoire moins connu, quoi. Enfin, que du coup, il y avait une tension un peu dans l'image, le rayonnement du territoire au-delà d'ici sur ces enjeux d'accès au logement.
C'est encore une dualité. D'un côté, je favorise le tourisme parce que ben, économiquement, ça apporte de l'argent et ça fait vivre. Et puis, on a une belle région, donc ça, voilà. Mais d'un autre côté, je fais augmenter artificiellement le nombre de ce que tu disais, Airbnb ou de gîtes ou de choses comme ça, et j'empêche les gens de venir s'installer durablement. Donc, voilà. Finalement, à discuter, on se rend compte qu'il y a plein d'antagonismes comme ça qui font qu'on est toujours sur un fil et... qu'est-ce que je favorise comme politique ou l'une ou l'autre, et c'est difficile, quoi.
Et du coup, là, on parlait donc du pouvoir que peuvent avoir certaines communes ou pas dans la gestion de ce parc locatif. Et moi, je voulais vous demander, donc toi, Esteban, fais partie d'une association. Pourquoi, en tant qu'association, se saisir de ce sujet? Est-ce qu'il pourrait y avoir des nouvelles manières, en fait, de se saisir du logement autre que en passant par une institution étatique ou la commune? Est-ce qu'il peut y avoir des instances citoyennes qui s'emparent de ce sujet-là? Est-ce qu'il y a d'autres lieux de débat à porter? Là, c'est des questions un peu plus prospectives, des axes et des bras de levier, en fait, à activer là-dedans.
Et je sais pas, c'est une question qu'on se pose. En fait, le logement, c'est quand même une question qui est tellement en lien avec la propriété privée, qui est... quand même un gros sujet, et du coup c'est difficile de tirer des liens sans braquer tout de suite les gens. Nous, dans notre travail, on a été pas mal inspirés par aussi des travaux qui se font sur d'autres territoires, qui sont un peu plus avancés dans ces enjeux de touristification ou de désertification, notamment un travail qui a été mené par le syndicat de la Montagne Limousine sur le plateau de Mille Vaches. Et c'est un groupe d'habitants et habitantes qui ont édité une sorte de brochure d'une centaine de pages qui fait à la fois l'état des lieux de la vacance et de la résidence secondaire sur le territoire, et qui propose, qui dresse en fait une liste d'outils qui sont prenables en main par les communes, mais avec un peu de volonté politique et un peu en se mouillant un peu, pour faire un recensement des logements vacants et les déclarer sans bien y mettre quand ils sont vacants depuis trop longtemps, pour pouvoir ensuite enclencher des dynamiques de réappropriation de ces logements et de réaffectation vers des usages habitants ou vers des personnes qui voudraient accéder à de la propriété ou vers des locataires. Mais c'est des leviers d'action qui nécessitent de la volonté politique.
Et de la collaboration, j'ai l'impression, entre plusieurs acteurs, qu'ils soient habitants, communaux, peut-être même les bailleurs sociaux. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des mots sur la question de Drôme Aménagement Habitat, par exemple, qui est un bailleur social du coin.
Effectivement, ces bras de levier dont parlait Esteban, ils existent, hein, parce qu'il y a des lois qui permettent aux collectivités d'exproprier les gens, ou de récupérer ces logements vacants, qui, entre parenthèses, pour la zone géographique étudiée, sont très peu nombreux. On est à moins de 7% de logements vacants sur les communes étudiées. Donc voilà.
Mais quand même, voilà.
Mais c'est quand même 7%.
Et qui sont aussi dans un espèce de flou statistique dans les données de l'INSEE, où en fait, une résidence secondaire qui va être ouverte 2 jours par an pour aérer le bâtiment et qui dépérisse pas trop, va être considéré résidence secondaire au même titre que des personnes qui passent 6 mois par an sur le territoire, alors qu'on a des participations au territoire et des rapports à celui-ci qui sont vraiment complètement différents.
Mais là, pour le coup, si je reviens un peu à mon travail et à l'existence de la FOP, on a bien 2 visions différentes. Le travail d'une association qui est d'être c'est un mot à la mode, un lanceur d'alerte, et moi de mon côté qui ai fait quelque chose de tout à fait sans prise, sans donner mon avis, quoi.
Et justement, pourquoi avoir choisi de travailler avec une association, de faire ton stage avec la Fédération des Amis Usagers du Parc?
C'était... J'aurais pu le faire dans différentes structures, hein, soit chez un bailleur social comme l'ADH, la Drôme Aménagement Habitat, soit au sein du parc, soit au sein d'une association. Ça m'a paru intéressant d'être au sein d'une association parce que ils sont porteurs de la vision des gens. Moi, j'avais pas la possibilité d'aller interviewer tout le monde, donc j'ai utilisé leur travail pour faire une base au mien. Donc voilà, c'était ça la raison principale qui m'a fait aller vers la FOP.
Et moi, je voulais savoir, du coup, quelles vont être les prochaines étapes, peut-être, pour la FOP ? Est-ce que vous allez continuer à faire des entretiens ? Est-ce que vous allez continuer à faire peut-être des ateliers avec des habitants, diffuser de l'information ?
Et bah oui, on va continuer à faire tout ça. Là, c'était enrichissant et aussi motivant d'avoir Franck qui soit sur son enquête là pendant un mois et qui vienne nous poser des questions. Ça nous a fait cogiter un peu et ça nous a fait aussi sortir un peu de certaines idées préconçues qu'on pouvait avoir quand même toujours sur ces questions de logement. Et ça m'a donné envie de poursuivre les échanges depuis des points de vue vraiment différents. Et d'ailleurs, à la base, on avait aussi invité sur ce plateau des élus en charge du logement sur le Royan, Drôme Aménagement Habitat, ainsi qu'une partie du personnel de France Service à Pont-en-Raillon. Et si personne n'a été disponible pour venir aujourd'hui, les réponses ont quand même été assez enthousiastes. Et on a quand même pu obtenir un entretien au téléphone avec Drôme Aménagement Habitat, qui nous a livré quelques mots aussi sur leur action et leur vision du logement dans le coin.
Eh ben, on va écouter une première partie donc de cette conversation téléphonique. Donc c'est Nora, qui est une autre membre de ce groupe logement de la FOP, qui pose des questions donc à deux personnes de Drôme Aménagement Habitat.
Est-ce que rapidement vous pouvez me donner votre impression sur l'état des logements et de l'accès au logement sur le Royan et le Vercors?
Historiquement, sur la partie purement propriété de Drôme Aménagement Habitat, on est présent sur 6 communes du Royan, Échevis, Saint-Jean, Saint-Laurent, Saint-Nazaire, Sainte-Eulalie, Saint-Thomas, 263 logements locatifs aujourd'hui. Et on est présent sur 4 communes du Vercors, La Chapelle, Saint-Agnan, Saint-Martin et Vassieux, en 21 logements en tout.
Sachant qu'on a un turnover sur notre patrimoine qui est plutôt de 8 à 10%, donc sur ces fameux 284 logements dont les propriétaires Drôme Aménagement Habitat, c'est du logement locatif à loyer modéré, logement social, on a une libération sur une année d'à peu près une vingtaine de logements. Il y a un poids de la demande qui est évidemment un peu moins important sur la communauté de communes du Royan-Vercors qu'à l'échelle de la Drôme, mais ce qui peut aussi s'expliquer puisqu'on a Valence-Romain Aglo et les deux Aglos ainsi que Montélimar qui drainent évidemment la demande principale avec des bassins d'emploi.
Alors là, ils viennent de confirmer un peu de tout ce qu'on a dit depuis ce matin, hein, c'est que ils sont actifs et présents avec les moyens qu'on leur donne, hein, puisqu'ils sont fortement dépendants de la politique générée par l'État. Donc ils ont un parc immobilier quand même conséquent, hein, 284 logements dits sociaux. Mais par contre, ce qu'on entend là, 10% de turnover, ça veut dire plusieurs choses. Hein, ça veut dire que les gens ont du mal à trouver autre chose. Et puis que peut-être aussi ils sont bien là, donc ils ont pas envie de bouger et on retrouve la même problématique dont on parlait tout à l'heure sur les petites communes, quoi.
On écoute la suite de cette discussion.
C'est assez différent entre le plateau et le Royan, hein, parce que on a beaucoup plus d'offres sur le Royan que sur le Vercors, donc la délai peut être un peu différent sur ces deux parties-là. La Chapelle en Vercors, c'est la moitié des logements qui sont des résidences secondaires. Donc le report sur les logements disponibles n'est pas toujours simple. Il peut y avoir aussi du logement touristique, loué en saison et pas loué à l'année à des personnes qui seraient à l'année.
Et ça, vous estimez que ça a un impact fort sur la disponibilité locative ou même la disponibilité à l'achat ?
C'est un impact fort sur les disponibilités locatives. L'achat, il y a des possibilités. Aujourd'hui, il y a des lotissements qui sont faits à La Chapelle. Continue. Par contre, c'est un niveau de revenu qui est en train d'évoluer de façon assez chère, on va dire. Le coût d'achat d'une maison a fortement augmenté et donc il n'est pas accessible à tous les ménages. Et pour un ménage qui cherche à louer, aujourd'hui, notamment sur le plateau Vercors, hein, c'est assez compliqué parce que les produits ils sont assez peu nombreux, pas forcément qualitatifs. Et donc, on a aussi des ménages, on avait repéré notamment toute la famille monoparentale ou personne seule, avait des difficultés à trouver des logements en locatif sur le Vercors. C'est un peu plus facile sur le Royan. Voilà.
Là, on aborde le thème de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la disponibilité du logement, hein, et comme le dit la personne de la DH, hein, alors suivant le territoire et suivant sa dynamique et ce vers quoi il est orienté, ben on a des disponibilités plus ou moins grandes. Donc là, on entend qu'il y a moins de dispo sur le plateau, ben, parce que c'est une zone géographique plus difficile d'accès, avec un bassin d'emploi un peu moins fourni que dans le Royan. Et la problématique qui est bien mise en avant, c'est que c'est un gros problème pour la location, quoi. Donc, c'est-à-dire que, en sachant quand même que les gens qui veulent venir habiter dans des milieux ruraux comme ceux dont on parle, eh ben, ce sont des gens, alors c'est un phénomène de société, mais les familles monoparentales, des saisonniers, ce que j'appellerais les exclus des grandes villes, ou des gens un peu dans la précarité avec des revenus plutôt faibles. Donc, s'il n'y a pas de disponibilité, ben c'est difficile pour eux et on touche du doigt la problématique qui est en plus exacerbée par ce logement touristique, quoi, dédié au tourisme.
Ouais, on entend avec plus de 50% à la chapelle, quoi.
Voilà.
Et ben, on écoute la dernière partie donc, de cette discussion entre Nora et deux personnes de Drôme Aménagement Habitat.
Est-ce que vous avez des pistes pour lutter contre la vacance ?
Alors, il y a deux sujets. Il y a notre patrimoine, c'est-à-dire une stratégie d'intervenir en renouvellement urbain sur notre patrimoine existant, en requalification, réhabilitation. Voilà. Donc ça permet de maintenir des logements qui répondent aux attentes des habitants. Ensuite, on peut aussi évoquer Samuel, Petite Ville de Demain, mais la Petite Ville de Demain, on est plutôt sur Saint-Jean-en-Royan. Il y a un sujet, en effet, de reconquérir l'habitat privé vacant.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce phénomène d'habitat privé vacant ?
En tout cas, c'est un sujet politique au sens d'action sur le territoire. La communauté de communes, retenue trois communes, on va dire, La Chapelle, Saint-Jean et Saint-Nazaire, pour engager une procédure qui s'appelle Opération programmée de l'habitat à destination de propriétaires privés pour que les inciter, avec des subventions et des aides, les inciter à rénover leur qu'ils soient occupés ou qu'ils soient vides, d'ailleurs.
Eh bien, c'est intéressant que Drôme Aménagement Habitat dise ça, parce que ça vient faire écho à une autre prise de parole qu'on avait pu recueillir sur le marché, plutôt de la part d'un propriétaire cette fois-ci, qui nous donnait un peu une bonne marche à suivre de qu'est-ce qu'on pouvait faire de son argent et de ses logements en tant que propriétaire. Si jamais on peut l'écouter, ça fait une bonne transition.
Du coup, j'ai acheté à Pont une maison qui était un peu surdimensionnée pour moi. Donc du coup, j'ai divisé et créé deux logements en lieu et place d'un logement. J'ai loué ce logement à une amie, du coup, à un tarif négocié, enfin voilà, qui permettait d'accéder à un truc qui était bien mieux que ce qu'elle avait jusque-là. Elle était dans les HLM à Pont, là. Et puis moi, de récupérer 3 sous pour rembourser mon crédit. Et puis là, ça fait 3 ans. Et du coup, vu qu'elle est intéressée pour rester, je lui vends le logement. Voilà. Et après, c'est vrai que moi, je me pose des questions sur le fait de réinvestir, entre guillemets, mais d'essayer de, bah, quand je vois tous ces logements-là qui sont vides, voilà, d'essayer de refaire des trucs et en même temps.
Il y a du boulot. Hein.
Ouais, il y a du boulot. Je pense qu'il y a un certain nombre de logements qui correspondent plus aussi aux normes. Ça veut dire qu'il y en a pour
des sous,
pour énormément d'argent que de refaire ces logements. Et puis je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui a envie d'habiter dedans, quoi, parce que tous ces logements de centre-ville, il n'y a pas de place de parking, il n'y a pas de lumière, il y a des coûts super prohibitifs en termes de chauffage, etc.
Et c'est l'occasion pour la FOP Logement de passer un petit appel aux propriétaires qui se sentiraient un peu perdus face à leur parc immobilier ou face à leurs investissements en devenir. Si vous avez des logements vacants en quête d'habitante, ou bien si vous vous posez des questions sur comment remplir votre résidence secondaire ou votre résidence autre, n'hésitez pas, contactez-nous et on pourrait poser ensemble les premières pierres d'une gestion commune du logement en Royan-Vercors.
Et alors, comment est-ce qu'on contacte la FOP?
Eh bien, on lui envoie un mail sur l'adresse fopvercors@protonmail.com.
Super, merci beaucoup. Est-ce que vous vouliez rajouter des petites choses pour conclure ce plateau, donc sur la question du logement?
Bah, pour ma part, on a validé le constat que la demande est bien supérieure à l'offre. Ce qu'on peut aussi valider, c'est que la présence, enfin le fait que nous soyons dans une région touristique, génère un parc immobilier dédié au tourisme élevé et que ça a un fort impact sur la disponibilité du logement pour les maisons principales. Beaucoup de difficultés à se loger, mais par ailleurs des gens qui font des choses. On a entendu la DAH qui essaye de faire tout ce qu'elle peut, on entend des propriétaires qui sont peut-être volontaires moyennant des aides, on voit des communes qui font aussi des choses, donc on peut garder une vision positive du souci, qui en reste un mais qui a tendance à aller vers une amélioration quand même. Voilà les conclusions que je pourrais donner.
Des conclusions plutôt stimulantes pour toi, Franck, malgré un constat qui est tel qu'il est aujourd'hui dans le Royan-Vercors, mais des pistes d'action quand même qui se dessinent, peut-être notamment avec des structures associatives qui pourraient faire l'intermédiaire en fait entre plusieurs acteurs.
Complètement.
C'est leur rôle, je pense, premier. Hein, c'est de, et d'ailleurs, de façon basique, c'est inscrit dans leur statut. Hein, voilà, ils sont porteurs de la parole des citoyens. Et c'est une des choses les plus importantes à l'heure actuelle. Hein, on a vu des mouvements comme les Gilets jaunes ou des choses comme ça, où les gens ont envie de dire leurs problèmes et d'être aidés. Et merci aux associations de faire ce travail.
Moi, effectivement, à la FOP, ça me donne envie de poursuivre un peu plus ce travail qu'on avait commencé quand même plutôt du côté des personnes qui cherchent un logement et de le poursuivre un peu pour faire justement ces liens et ces échanges entre les différentes personnes qui portent différents aspects du sujet. Et un autre élément que je retiens, c'est que choisir la politique du logement, c'est aussi, on l'a vu à travers ton récit, Franck, c'est aussi choisir quel profil on veut privilégier pour donner accès au logement et pour remettre un peu la casquette de l'association un peu militante. Et puis de ma posture dans ce territoire par rapport au logement, j'avais envie de témoigner un peu de moi et aussi de mon entourage et de dire que trouver un logement, ça veut pas toujours dire trouver un logement de qualité. Ça veut aussi dire accepter les appartements humides, sombres et bruyants des centres-bourgs, accepter de vivre à plusieurs, parfois par choix, parfois pour dépanner, parfois avec des enfants qui auraient préféré vivre dans une maison tout seul avec leurs parents, accepter de se faire refuser des locations parce qu'on rentre pas dans les cases de la famille nucléaire, de se faire raccrocher au nez par des agents immobiliers parce qu'on a prononcé le mot colocation, accepter les rebondissements, les refus, compter sur le bouche à oreille, faire des fausses garanties ou bien photoshopper des contrats de travail pour pouvoir gagner un revenu trois fois le montant de son loyer, et tout de même avoir la chance d'avoir des papiers français et donc d'avoir légalement le droit d'accès à un logement. C'est toquer aux portes, éplucher les cadastres, tendre l'oreille au bar du village, activer ses notifications Le Bon Coin pour espérer avoir une chance d'accéder nous aussi à la propriété, puis être pris en stop par des ingénieurs parisiens en télétravail dans le Royan qui ont acheté les yeux fermés une maison en faisant grimper les prix de l'immobilier. C'est voir son appartement mal chauffé, de voir depuis son appartement mal chauffé le Airbnb rénové à 250€ la nuit en face de chez soi. C'est voir des amis arriver et puis repartir faute d'avoir trouvé quelque chose d'adapté, ou à force de se faire réveiller en centre-bourg par les bruits des motos qui viennent parcourir les sublimes routes. Enfin bref, trouver un logement, c'est pas toujours trouver un logement qui nous convient. Et en même temps, c'est aussi parfois quand même un joyeux jeu de piste que d'aller de coloc en coloc et de découvrir les différentes maisons du territoire. En tout cas, c'est quelque chose qui continue à nous motiver pour continuer à creuser le sujet. Et tout le monde est le bienvenu pour continuer à réfléchir à ça ensemble.
Merci beaucoup pour ce beau témoignage, Esteban. Et merci aussi à toi, Franck, d'avoir posé un regard sur notre territoire, un regard un peu universitaire, mais en fait, c'est hyper chouette d'accueillir aussi des dynamiques comme la tienne. Donc merci à vous deux et merci d'être venus sur les plateaux de Radio Royan Vercors. Et merci à Nora qui est pas là mais qui a participé à l'organisation de ce plateau. Et juste avant de le terminer, je voulais faire un clin d'œil aux copines des Noctules, l'émission féministe radicale tendre et joyeuse de Radio Royan, dont l'épisode numéro 23 s'appelle « Les dessous du logement ». Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez réécouter l'émission sur notre site internet radioroyan.fr. Et on rappelle peut-être pour terminer les contacts de la FOP, Fédération des Amis et Usagers du Parc, si des auditeurs et des auditrices souhaitent rebondir, réagir à cette grande question du logement, donc c'est fopvercors@protonmail.com. Et puis on est aussi là, Radio Royan, pour accueillir d'autres plateaux, d'autres réactions. On serait ravis de poursuivre ce plateau. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.